RCF.
Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village.
Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village.
Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village.
Tu veux jouer avec nous ? Maman, je sais pas quoi faire. Va jouer dans ta chambre. Tu veux on joue à la poupée ou on joue au docteur ? Le jeu, si présent dans l'univers des enfants, quand et comment se met-il en place ? Est-ce utile de jouer ? Est-ce vraiment si important ? Nous allons en discuter un peu avec Cécile Baillet, qui a un métier spécial puisqu'elle est psychothérapeute, mais qu'elle soigne par le jeu.
Eh ouais, on a des nouveaux collèges. Collège de l'impunité, on va faire des bons élèves. Les enseignants seront armés, les classes en béton armées.
Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour entendre parler du jeu. Voilà, Cécile Baillet, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, vous êtes intéressée par les enfants et vous avez décidé de vous former et de propager une thérapie par le jeu qui est peu connue en France. Alors, on fera peut-être une émission plus spécifique un jour sur la thérapie par le jeu. Mais voilà, est-ce que vous pouvez déjà en parler un tout petit peu à nos auditeurs pour leur donner un peu un avant-goût ?
Alors, je suis effectivement thérapeute par le jeu, qui est une terminologie qui n'est pas très très courante en France, en tout cas sous cette appellation-là, mais par contre qui est totalement diffusée depuis plus de 30 ans aux États-Unis, au Canada, et c'est au Québec, parce que je souhaitais l'apprendre en français si possible, que je suis allée me former à cette technique, qui est une technique très très naturelle, très intuitive pour l'enfant et qui permet de l'accompagner sur des problématiques du quotidien, des symptômes divers et variés, sans que l'enfant ait l'impression de venir pour un problème et sans qu'il ait l'impression d'être là pour un soin. C'est-à-dire qu'il vient pour jouer, il est dans la dynamique naturelle du jeu et sans s'en rendre compte, il amène un certain nombre de solutions par rapport à son problème.
C'est merveilleux. Il doit être super content de venir vous voir, les enfants.
Alors, les enfants sont très heureux de venir. Ils se posent même à un certain moment la question de « mais pourquoi je viens ?» Parce qu'ils se rendent compte qu'ils viennent s'amuser, mais dans un cadre qui est quand même particulier. Donc, au bout d'un moment, ils finissent par réaliser. Et puis, les parents sont assez contents aussi de pouvoir accéder à une technique d'accompagnement qui soit aussi naturelle, facile à expliquer en termes d'approche et qui leur permet aussi d'être particulièrement intégrés à la technique parce que moi, j'essaie de voir les parents une fois toutes les 4 ou 5 séances, puisque bien sûr, le jeu se fait avec l'enfant hors la présence des parents. Mais une fois toutes les 4 ou 5 séances, on inverse et c'est les parents qui viennent. Alors, ils ne viennent pas jouer.
Ah, dommage.
Mais ils viennent un petit peu comprendre ce qui se fait et comprendre la problématique de leur enfant. Donc, ils sont partie prenante aussi. Ils sont dans le jeu, on va dire.
Ils sont dans le jeu. Ouais. Ils jouent aussi. Ces enfants que vous recevez, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge ?
Alors, l'idée, c'est qu'ils puissent être dans l'envie du jeu. Donc, on va dire que je peux les recevoir à partir de 3 ans, parce qu'à partir de 3 ans, ils sont dans cette forme d'interaction, même si le langage n'est pas complètement installé, le jeu est déjà installé. Donc, on va dire à partir de 3 ans. Et ce que j'essaie de faire, c'est de m'arrêter vers à peu près 10 ans, parce que c'est la période à laquelle l'enfant va être soit en regard de lui-même quand il joue, donc dans une dynamique
conscient de lui-même,
un petit peu moins naturelle, voilà, et avec un peu plus de retenue. Et puis c'est le moment aussi où ils sont davantage intéressés par des jeux qu'on va plutôt appeler le game, hein, c'est-à-dire un jeu avec des règles du jeu, alors que la technique que moi j'utilise, c'est celle qui se repose davantage sur la notion de play, c'est-à-dire la notion de jeu sur la base de scénarios, de petites histoires racontées, qui fait marcher l'imagination plus que la notion de règles ou de socialisation.
D'accord, donc si on voulait être complètement concret, ça pourrait être des jeux par exemple, je ne sais pas, de Lego ou de Playmobil.
Alors voilà, c'est surtout du Playmobil et des petites figurines. Ça peut être de la pâte à modeler aussi, ça inclut aussi forcément le dessin, si l'envie de l'enfant est là-dessus. On peut aller sur des techniques aussi plus de construction, genre Kapla. Alors Lego, moi j'aime pas trop parce qu'on passe tellement de temps à être sur de la construction et de l'assemblage que la partie justement dynamique, échange et expression libre est un peu limité, ça pourrait être canalisé.
Aussi,
voilà.
Ça pourrait aussi être joué à la poupée ou à la dinette ou voilà. À la maîtresse.
Tout à fait, avec des doudous. Enfin voilà, il y a tout ce panel possible. Mmh. Et l'enfant, lui, naturellement, va choisir plutôt ça, plutôt un autre type de jeu, ou les varier aussi au cours d'une séance. Il y a des enfants qui vont faire 4 jeux pendant une séance de 45 minutes
là,
et un autre qui va se concentrer sur un jeu, un scénario qu'il va répéter plusieurs fois. Ça dépend des enfants.
Alors, si on veut reprendre un petit peu, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est que le jeu finalement pour un enfant? Est-ce qu'on commence à jouer déjà tout petit? À partir de quel âge est-ce qu'on commence à jouer finalement? Ou est-ce qu'un bébé joue?
Alors oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On joue presque tout de suite. Alors tout de suite, c'est pas vrai parce que dans une première phase de tout bébé, évidemment, il n'y a pas cette notion d'interaction que suppose la notion de jeu.
Oui, enfin, moi, j'ai souvenir d'avoir un enfant qui était dans son berceau, donc il devait avoir 2-3 mois, et il y avait le soleil qui était dans sa chambre et qui jouait sur le mur avec les rideaux. Et mon enfant était complètement fasciné par les rayons du soleil, il les suivait du regard, ça l'a captivé pendant une bonne heure.
Eh bien, on peut dire que c'est une forme de jeu. Presque dans du jeu. Alors, peut-être pas avec le regard que nous, on a sur vraiment la notion de jeu telle qu'on peut la concevoir. Mais effectivement, c'est déjà les prémices, c'est-à-dire cette forme d'interaction entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans la tête du bébé. C'est pour ça que je disais, sur une première phase de tout bébé nourrisson, sur les 2-3 premiers mois de vie, cette interaction commence juste à se mettre en place, mais elle n'est pas,
elle est pas très développée.
Très développée, puis en termes de temps disponible, vu que le bébé dort beaucoup, on est sur des temps très, très limités. Mais très vite, effectivement, cette interaction va se mettre en place et l'enfant va se mettre à jouer très, très vite avec son parent, avec la personne qui prend soin de lui, sur des éléments d'aller et retour, finalement, dans l'interaction qui vont construire psychiquement sa personnalité et son esprit, en fait.
Et est-ce que les parents ont toujours conscience du fait qu'ils jouent avec leur enfant à cet âge-là?
Alors, je pense qu'ils ont l'envie d'être dans cette interaction-là. Donc, eux, ils sont déjà dans le jeu. Est-ce qu'ils sont dans la conscience d'être dans le jeu? Peut-être pas. Mais ce qu'on observe, c'est que de manière totalement intuitive et naturelle, le parent va se mettre dans cette position de jouer avec son enfant, à le chatouiller, à jouer. C'est des jeux qui arrivent très très tôt sur le cachet, coucou, je suis là, je suis pas là. Toutes ces notions de visible, invisible, ce sont des éléments de jeu, bien sûr.
Ou dans le bain, quand on fait couler de l'eau sur le crâne ou sur le ventre.
Voilà, où il y a des perceptions et puis des interactions, c'est ça l'élément important, enfin, des éléments de base de cette construction psychique qui permet, c'est un des premiers éléments justement de structuration importante qui fait la différence entre le bébé tout nourrisson qui n'est pas encore dans cette interaction et puis le bébé qui va commencer à être dans ce jeu-là, c'est qu'il va commencer à pouvoir imaginer des choses en dehors de ce qu'il vit intérieurement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la notion de symbolisation, c'est-à-dire de pouvoir imaginer son parent ou des objets à l'extérieur de lui sans les voir, sans les avoir sous les yeux. Et cette capacité de symbolisation que le jeu permet d'introduire, c'est ce qui va permettre derrière des tas de choses, notamment par exemple la question de l'apprentissage du langage, qui se repose sur cette capacité de symbolisation. D'où l'importance d'avoir du temps disponible pour être dans cette forme d'interaction avec l'enfant. Et d'où l'importance peut-être de déjà l'appeler jeu, et jeu constructif, en fait.
Oui, pas avoir l'impression qu'on perd son temps, ou qu'on gagatise, ou qu'on n'éduque pas son enfant, mais qu'au contraire, on participe à un moment important de sa vie.
Et dans le lien.
Dans le lien. Les parents aujourd'hui les mamans se sentent quelquefois un peu coupables de travailler, d'avoir mis son enfant à la crèche, de ne pas le voir suffisamment. Est-ce que le temps passé est important, ou est-ce que c'est plus dans le quotidien, dans les petits gestes?
Alors je dirais que ce n'est pas une question de temps passé. Je pense que c'est plus une question d'intensité et une question de disponibilité psychique. C'est dans cette disponibilité que l'enfant va apprendre à se construire, hein, qu'il va ressentir justement tout cet amour qui se met en place, qu'il va être rassuré de cette interaction. Et ce n'est pas une question de temps passé. Vraiment. Donc ça, si ça peut déculpabiliser certains parents, c'est important de faire passer ce message-là. Il faut du temps tous les jours
oui,
pour
mais
que ça soit régulier.
C'est plus la disponibilité de l'esprit.
Pas effectivement de se dire si je veux être une bonne mère, si je veux pouvoir revendiquer d'être une bonne mère, il faut que je passe une heure tous les soirs avec mon enfant. Un enfant qui va être dans l'interaction avec son parent, même 5 minutes par jour, mais de manière intensive et de manière proche, va pouvoir se construire de manière tout à fait normale et positive.
Oui. Eh bien, nous allons méditer là-dessus pendant quelques instants, écouter un peu de musique et on se retrouve.
Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des yaourts à la fraise, on les mange bien à l'aise. Des yaourts au chocolat, jusqu'ici ça va. Des yaourts à la groseille, on s'en met jusqu'aux oreilles. Et puis des yaourts aussi, au lait de brebis. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des yaourts à la pêche et d'autres noyaux de pêche. Y'a des yaourts aux brugnons, nef les potirons. Des yaourts aux fruits sauvages, ceux qui vous mordent au passage. D'autres aux fruits du verger qui sont sans danger. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Des yaourts à la tulipe qui sont sûrement anti-grippe. Et des yaourts aux cailloux qui font mal aux genoux. Y'a des yaourts à la sauge qui sont bons pour le pied gauche. D'autres à la tête de veau, c'est pour le cerveau. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Des yaourts au ver de terre qu'on mange avec un lance-pierre. À la bave d'escargot, c'est pour les costauds. Des yaourts aux crottes de bique qui éloignent les moustiques. Des yaourts au pipi de chat contre le tabac. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Et même en cherchant bien, on trouve des yaourts à rien.
Vous êtes toujours sur Cap Éducation, merci de nous rejoindre ou d'être resté avec nous. Nous sommes avec Cécile Baillet pour parler du jeu. Alors nous parlions tout à l'heure du jeu en tant que construction de la personnalité, de l'individualité de l'enfant. Mais le jeu, après quelques mois, quelques années, il prend aussi d'autres dimensions. Et donc on arrive peut-être à une notion plus d'apprentissage.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le jeu peut être le support, hein, dans un second temps, d'un espace qu'on va pouvoir appeler un espace d'apprentissage. Donc ça, c'est un espace qui va un peu aussi permettre à l'enfant d'élargir sa sphère. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'interaction avec la mère ou avec le père. Dans un second temps, l'enfant va commencer à découvrir la crèche, la nounou, la famille un peu plus élargie, puis l'école, etc. Et là, de nouveaux jeux vont se mettre, ou de nouvelles interactions vont se mettre en place qui vont lui permettre d'accéder à d'autres types de jeux et d'autres étapes de sa construction, qui va lui permettre de se socialiser aussi d'une manière différente et puis d'accéder à des apprentissages scolaires. On sait maintenant prouver, même si des intuitions existaient et des expériences avaient déjà eu lieu sur des écoles comme les écoles Montessori ou autres, que la technique d'apprentissage par le jeu était bien plus efficace, épanouissante, c'est évident, mais efficace en termes d'apprentissage, parce qu'elle repose sur des mécanismes que l'on peut donc prouver maintenant sur un plan physiologique et des neurosciences, qui reposent sur des compétences du cerveau qui sont des compétences tout à fait mobilisées dans le cadre du jeu. La notion de répétition, par exemple, la notion de plaisir, la notion de retour d'information. Toutes ces choses-là qui sont des caractéristiques qui permettent le bon apprentissage, c'est des choses qu'on utilise, hein, qu'on pratique dans le cadre du jeu. Donc on remet en place, hein, dans des expériences d'écoles alternatives ou même des expériences plus classiques, mais dans les méthodes pédagogiques qui sont enseignées aux instituteurs, aux maîtres d'école, on vient à des notions d'introduire le jeu dans les apprentissages parce que ça les favorise.
Oui, c'est à la fois révolutionnaire et déculpabilisant finalement. Enfin, révolutionnaire oui et non, parce que ça existe depuis une centaine d'années. Enfin, je veux dire, voilà, Maria Montessori, elle est quand même plus de la première jeunesse, la pauvre. Il y a encore beaucoup de gens qui sont persuadés que quand on joue, on perd son temps.
Alors que c'est l'inverse.
Alors,
on est bien d'accord. Oui. En fait, le jeu, donc, au-delà du fait qu'il construit la personne, au-delà du fait qu'il permet d'accéder à la compréhension du monde, de l'univers, faire la différence, par exemple, aussi entre la réalité et le virtuel, c'est pas rien, notamment à notre époque, de pouvoir, par le jeu concret, hein, je parle pas des jeux vidéo, mais justement, de faire cette différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Tout ça, c'est des apprentissages qui sont très, très importants pour les enfants et qui passent par le jeu.
Alors, est-ce que c'est des apprentissages qui se font seuls ou qui se font en groupe ?
Alors, il y a deux aspects. C'est-à-dire que dans l'apprentissage et dans le jeu, il y a l'aspect de l'interaction avec l'autre qui est particulièrement structurante. Et c'est par ce biais-là que se font les apprentissages, des règles, de la socialisation, etc.
Et ça peut se faire à partir de quel âge ?
Ah mais très tôt.
Très tôt.
C'est-à-dire que dans l'interaction
ans,
avec un frère ou une sœur ou avec un petit compagnon de crèche ou de nounou, on apprend l'interaction avec l'autre de manière déjà complètement intuitive. Donc il n'y a pas vraiment d'âge. Mm. Ça démarre dès la première rencontre finalement. Mm. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant, dans le jeu, il va aussi apprendre à être avec lui-même. C'est-à-dire qu'il y a l'espace de socialisation, le lien avec les parents, le lien avec le groupe, ensuite. Mais il y a aussi dans le jeu l'aspect invention individuelle, construction de la personnalité, qui intervient aussi par l'espace d'un jeu autonome. Alors, l'initiative, hein, l'apprentissage de ce jeu, il se fait par les pères ou par les parents, mais il est important que l'enfant ait cet espace, hein, de jeu libre, hein, pour pouvoir justement exprimer de manière autonome, hein, ce qu'il ressent, ce qu'il apprend, et puis de pouvoir utiliser aussi le jeu comme exutoire, comme lieu de décharge, hein, des émotions, de la pression, de ce qu'il a vécu dans la journée. Les enfants ont besoin, par le jeu, comme on le fait nous par le rêve, hein, ou les enfants aussi à partir d'un certain âge, hein, utiliser ces espaces, hein, de décompression, de décharge, pour se sentir
événement.
Mieux.
Voilà. Donc ils revivent un événement plusieurs fois et en le remodélant un petit peu.
Pour les enfants, dans le jeu, moi c'est ce que j'observe souvent dans ma pratique, le jeu va être l'endroit où l'enfant va pouvoir rejouer une fois, deux fois, trois fois un événement pas très agréable ou une envie très, 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 très forte. Et il faut pouvoir laisser l'enfant répéter plusieurs fois parce qu'on va se rendre compte qu'il va y avoir une modulation finalement de cet événement. Alors si on prend un exemple d'un élément négatif, que par exemple un enfant a pu subir dans la journée ou il a été un peu bousculé par un petit copain par exemple, et bien il va jouer une première fois cette scène-là, alors avec des Playmobil ou avec des doudous, hein. La première fois, il va continuer à être dans une forme d'interaction négative et traumatisante. On va voir que la deuxième fois, ça va déjà un petit peu se moduler et finalement, il n'y aura peut-être pas de gagnant, pas de perdant. Et puis, on va peut-être voir la troisième fois que le gagnant de la première fois est devenu le perdant de la dernière fois. Donc, ça veut dire que l'enfant, par ce jeu, par cette forme de répétition qui a l'air stérile mais qui ne l'est absolument pas, eh bien, il va un peu construire, hein, de manière différente sa vision de la réalité et quelque part digérer un peu une émotion ou un événement de la journée passée.
Alors ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire tout à fait naturellement, en fait.
Tout à fait. Chaque enfant le fait, à supposer qu'il ait suffisamment d'espace, de temps libre pour cela. C'est-à-dire qu'un enfant qui rentre de l'école, qui goûte, qui fait ses devoirs et qui se met devant la télé, il ne va pas avoir ce temps disponible pour vivre ça. Alors, il va peut-être rejouer ça sous forme de rêve, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que autant dans le jeu, il va pouvoir être acteur de cette évolution-là et avoir un sentiment de prise de possession d'un événement, autant dans le cadre d'un rêve, il va un peu décharger cette mauvaise sensation, mais il ne va pas forcément prendre la main sur l'action.
Oui, il ne va pas reconstruire quelque chose de positif par rapport à ça. En fait, il ne va pas apprendre et reconstruire.
Il ne va pas le digérer de la même manière, parce qu'il va être moins acteur, parce que la partie consciente, dans le rêve, elle n'est pas là.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, donc il y a cet espace de décompression qui est dans le jeu. Et alors, cet espace de socialisation avec les camarades, avec la famille, avec les frères et sœurs, est-ce que c'est quelque chose qui se passe de la même façon quand on joue, par exemple, avec une console vidéo à plusieurs? Ou est-ce que le fait d'avoir un jeu beaucoup plus concret, je ne sais pas, un jeu de domino ou un jeu de loi ou de petits chevaux, est plus bénéfique à l'enfant que le partage, par exemple, d'un jeu de console?
Un jeu de console, on va considérer qu'il va y avoir quelque chose de déjà guidé. Donc la liberté d'invention, elle est déjà complètement limitée. Après, dans un certain nombre de jeux, on est beaucoup sur de la manipulation manuelle, qui a aussi des intérêts en termes de motricité, en termes de ressenti physique. Ce que le jeu vidéo peut donner par le biais du joystick, du doigt, ou du
toucher. Oui.
Mais de manière quand même particulièrement limitée et répétitive, et qui ne peut pas se comparer avec justement la richesse de ce que le toucher dans le cadre du jeu peut aussi apporter. Donc il n'y a pas que l'aspect psychologique, il y a aussi l'aspect moteur. Qui est très très important dans le jeu.
D'accord, donc il faut essayer de favoriser un peu aussi ces jeux non virtuels, ces temps de jeux non virtuels, un peu compliqués aujourd'hui où les enfants sont très demandeurs d'écran.
Je crois qu'il faut, en tant que parent, peut-être rester ouvert aux différents types de jeux et d'évolutions, mais réserver, ça c'est un message peut-être à faire passer, du temps de jeu libre aux enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui va dire « je m'ennuie », eh bien, il va assez vite trouver l'espace pour jouer, justement.
Oui, alors et si on ne le libère pas, ce temps-là...
Eh bien, c'est peut-être des fois des formes de jeu. Après, il faut peut-être les surveiller, les canaliser, mais il peut y avoir dans l'invention quelque chose de ludique.
C'est ça, donc on va essayer d'encourager les parents à regarder les bêtises de leurs enfants comme qu'une invention, si je me réfère.
Plutôt que de les mettre devant la télé, il faut peut-être effectivement leur donner de l'espace pour inventer et peut-être se donner un petit peu de règles pour les accompagner.
Oui, mais écoutez, si j'en crois la dernière bêtise de ma petite fille qui a pris une clé pour aller rayer tout le mur de sa chambre, je pense que c'était très inventif et créatif, mais ma fille n'était pas franchement de cet avis.
On peut la comprendre.
Vous voyez, il y a aussi ces problèmes-là. Ils ont effectivement du temps, mais qu'est-ce qu'ils en font? Et c'est compliqué quelquefois de les canaliser dans une vie
très remplie. Je crois que le rôle du parent, justement, il est dans ce rôle d'initiateur, c'est-à-dire de montrer à un enfant les possibilités de jeu, plutôt que de le laisser peut-être inventer des bêtises, c'est-à-dire donner l'envie, et puis après le laisser libre et lui laisser du temps libre pour ça. Je crois que c'est important.
Est-ce que vous pensez que par exemple à l'école, les enfants jouent suffisamment?
Je pense que ces espaces-là sont préservés, qu'ils ne sont pas si différents maintenant de ce qu'on a pu connaître ou que nos parents ont pu connaître. Ça, je suis quasiment persuadée que cette phase-là n'a pas énormément évolué. J'ai l'impression que sur les temps d'apprentissage, la question du jeu et de la méthode plus ludique d'apprentissage est en train de prendre de l'essor. En tout cas, il y a de plus en plus d'expériences de cet ordre-là. Donc, je pense qu'il y a davantage d'espace de jeu. En tout cas, le jeu est davantage reconnu comme quelque chose de nécessaire.
Ça, c'est ça. Pas que les parents s'inquiètent quand les enfants rentrent à la maison en disant « Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, mon chéri? J'ai joué. »
Ah, mais c'est formidable. S'il joue à l'école, c'est comme ça qu'il apprendra le mieux. Pas s'inquiéter.
Merci Cécile Baillet de ce message optimiste pour les parents angoissés. Et merci d'être venue nous rejoindre à ce micro.
C'est un plaisir.